Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Comment élargir le cercle des mélomanes? Comment dérider le patrimoine? Question cruciale à laquelle répondent de nombreuses initiatives propres à chasser les idées reçues, dont celle-ci, relayée par Thierry Ilerito dans le Figaro, un pari fou relevé par la Scala de Milan le 17 septembre pour une représentation filmée de l'Elisir d'Amore de Donizetti, dont le décor n'était autre que l'aéroport Malpensa de Milan. Investissant différents espaces de l'aérogare, tarmac, contrôle, restaurant, la troupe de l'opéra, dont la star Vittorio Grigolo, s'est prêtée au jeu avec un plaisir communicatif, une initiative du nouveau surintendant de la salle, Alexander Pereira, qui avait déjà produit une Traviata en gare lorsqu'il était à l'opéra de Zurich. On ne sait si Donizetti ou Verdi ont des ayants droit sourcilleux, mais ce genre d'initiative peut vous conduire tout droit au tribunal, voire la décision gravissime. Juge Christian Merlin, là encore dans le Figaro, que vient de rendre la Cour d'appel de Paris et qui, si elle devait faire jurisprudence, signifierait tout bonnement la fin de la liberté des interprètes en matière musicale et théâtrale. Cela fait plusieurs années, explique le critique musical, que les héritiers de Georges Bernanos et Francis Poulenc poursuivent l'opéra de Munich, le metteur en scène Dmitri Tcherniakov, la société de production audiovisuelle Bel Air Classique et la chaîne de télévision Mezzo, dans le but de faire interdire la géniale mise en scène des dialogue des Carmélites monté à l'Opéra de Munich par le metteur en scène russe. Principal objet du litige, Tcherniakov a changé la fin de l'opéra, puisque l'on y voit Blanche sauver les Carmélites et se sacrifier, la guillotine étant remplacée par des bouteilles de gaz, au lieu de les voir aller vers la mort, comme dans l'original. Le 13 mars 2014, le tribunal de grande instance avait rejeté les demandes des plaignants, condamnés aux dépens, considérant qu'il n'y avait pas dénaturation. Décision de pur bon sens, s'agissant qui plus est d'une mise en scène qui pose des questions théologiques majeures. C'est ce jugement que la Cour d'appel vient de contredire en joignant à Bel Air de retirer de la circulation tous les DVD et à en cesser la diffusion à la télévision et sur Internet au nom du droit moral des auteurs. Les 10 auteurs étant morts depuis longtemps, ils sont représentés par des ayants droit. On ne répétera jamais assez combien les héritiers s'érigeant gardiens de l'authenticité et des intentions de leurs aïeux peuvent être néfastes. Le festival de Bayreuth a sombré dans la médiocrité quand Cosima Wagner, la veuve du compositeur, y a interdit toute évolution du chant comme des mises en scène. Autre veuve, Yvonne Loriot, a voulu faire interdire la mise en scène par Peter Sellars de Saint-François d'Assise, l'opéra d'Olivier Messiaen, à ce jour la production de loin la plus réussie de l'ouvrage. À la différence des arts plastiques, où l'œuvre existe par elle-même, le théâtre et la musique passent par le truchement d'interprètes, metteurs en scène, chanteurs, chefs d'orchestre, pianistes. À eux se pose en permanence la question obsédante de la fidélité à l'œuvre, livrée ou partition, et celle de la lettre et de l'esprit, notions éminemment problématiques et fluctuantes. À Bayreuth encore, Patrice Chéreau a reçu des menaces de mort pour avoir remplacé le Rhin mythologique par un barrage au début du Ring de Wagner, production devenue aujourd'hui un classique indémodable. Jusqu'où peut-on aller en matière d'interprétation? Cette question relève d'un débat esthétique stimulant, en aucun cas de la justice, à Saint-Christian Merlin, sans quoi ni Robert Carson, ni Bob Wilson, ni Peter Sellars, ni Olivier Py ne pourraient plus jamais faire de mise en scène. Et puisqu'on y est, pourquoi ne pas étendre le procédé à la musique? Et le critique du Figaro de proposer de retirer de la vente la 9e de Beethoven par Karajan, car elle dure 1h15, alors que le compositeur avait précisé qu'elle ne devait pas excéder 3/4 d'heure. Et tant pis, s'il s'agit d'une version de référence, on marche sur la tête et l'on préférerait en rire. Si derrière la neutralité du langage juridique, l'arrêt du 13 octobre 2015 ne nous semblait si inquiétant. D'autant qu'il risque de figer à jamais l'opéra contemporain et de le faire rimer encore un peu plus avec ennui. L'opéra d'avant-garde serait-il inexorablement coupé du public? Demande ainsi Philippe Venturini dans les Échos Week-end. Pour Francis Wolff, professeur émérite au département de philosophie de l'École normale supérieure et auteur de « Pourquoi la musique chez Fayard ?», pendant trop longtemps, l'idéologie avant-gardiste a privilégié la nouveauté à tout prix au détriment du plaisir de l'écoute. L'opéra de Paris a souffert de cette intransigeance. Il a fallu du temps avant de pouvoir y entendre les œuvres plus accessibles de Janáček, Britten et Shostakovich. L'opéra américain a apporté une bouffée d'air frais. Leonard Bernstein et plus près de nous, John Adams avec Nixon in China ont su rencontrer un public plus large. Leur œuvre se montre plus spontanément lyrique. Elle ne craint pas de chanter. Or, le public va à l'opéra pour entendre chanter, même s'il est habitué depuis plus d'un siècle, depuis Péléas et Mélisande de Debussy, à un style plus proche du récitatif. La question est donc de savoir si aujourd'hui on peut entendre un opéra dira, qui n'aille pas contre la voix en utilisant un langage actuel. De nombreuses expériences sont restées stériles, mais il y a d'incontestables réussites, comme le Saint-François d'Assise d'Olivier Messiaen, encore lui, de 1983, ou Written on Skin de George Benjamin, créé en 2012. L'opéra contemporain ne doit plus apparaître comme un épouvantail, estime également Antoine Gint, metteur en scène actif dans l'opéra contemporain et coupable d'un mémorable et peu orthodoxe Ring Saga. Mais pour y parvenir, dit-il, il faut créer un répertoire et non des œuvres isolées. Or, peu sont régulièrement reprises, à part Trois Sœurs de Peter Udvösch. Il faut donner envie au grand public de venir et ne pas considérer la création comme une simple mission. Encore faut-il évidemment que les tribunaux ne s'en mêlent pas.